Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Cette émission s'intéresse à Montpellier et à la métropole, à celles et ceux qui y agissent de diverses manières, actifs dans une association, responsables dans l'économie, l'enseignement ou la culture, engagés pour améliorer la vie des habitants et bien sûr, parmi eux, élus locaux. Voilà pourquoi j'ai invité Véronique Négret, merci madame, de venir au micro de Divergence.
Bonjour.
Vous étiez professeur de sciences économiques et sociales au lycée Champollion à Latte. Vous avez décidé de vous consacrer entièrement à vos mandats politiques quand, en 2020, vous avez été élu maire de Villeneuve-les-Maguelones dans une liste citoyenne sans étiquette. Puis vous avez été élue par le Conseil métropolitain, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au littoral, à la GEMAPI, on expliquera, gestion des milieux aquatiques et prévention des risques, et aux risques. Ce sont vos deux domaines de responsabilité, nous allons donc en parler. Première question, pourquoi, pour la première fois, avez-vous, il y a 5 ans, décidé de vous engager en politique et pourquoi, sans expérience dans ce domaine, avez-vous pris la tête de la liste?
Alors, c'est une décision qui n'était pas individuelle, que j'ai prise en groupe avec des gens tout simplement qui étaient des amis, habitants comme moi de Villeneuve-les-Maguelones. En fait, nous étions complètement en désaccord avec la politique qui était menée et qui était en train de transformer, je dirais même enterrer notre ville dans une ville dortoir, en fait. Et il y avait aussi un problème de, je vais avoir des mots un peu forts, de non-respect de la démocratie, c'est-à-dire que les citoyens qui n'étaient pas d'accord avec la municipalité avaient beaucoup de mal à avoir un espace d'expression. Et il y avait eu aussi, peut-être vous vous rappelez de ce moment qui a été absolument marquant à Villeneuve en 2015, la fin de la scène conventionnée jeune public. Donc c'est
le maire. C'est-à-dire le principal outil culturel de la commune.
Oui, puis énorme parce ouais. qu'en fait c'était Villeneuve rayonnait vraiment avec cette scène conventionnée nationalement en fait. Et c'était enfin, une partie des Villeneuvois était fortement attachée à cet outil-là. Donc voilà, il y a eu une espèce de... Comment dire ?
De ras-le-bol.
Oui, de ras-le-bol. Et un moment où on passe de... Ça ne va pas ce qui se fait, on râle. Et puis on se dit, bon, mais non, mais si on est fondamentalement pas d'accord avec ce qui se fait, ben alors à ce moment-là, ben, il faut s'y mettre à faire. Donc on est parti. Ben voilà, c'est un petit nombre, pas tant que ça, puisque bon...
Une grosse poignée de
copains, mais vraiment de copains. On a dit, bon, ben, on va y aller. Donc, j'ai eu un moment d'hésitation. Voilà, enfin, ça, c'est les... Et puis, bon, on a rencontré d'autres Villeneuvois impliqués, qui étaient déjà plus actifs, ouais. Voilà. Et donc, on est partis tous ensemble. Mais moi, j'avais pas... Il n'a pas été décidé au départ que c'était moi qui allais porter la liste, même si dans nos discussions au préalable, un an ou deux avant, c'était une idée qui est ressortie.
Oui, vous avez quand même animé cette démarche.
Animé, oui, mais pas du tout en leader véritablement au départ, pas du tout. Et puis, en fait, c'est le groupe qui, à un moment, au moment où il a fallu déposer la liste, en fait, donc très tard, vous voyez, forcément, il faut une tête de liste.
Il fallait quelqu'un qui soit...
Voilà, il faut un nom en haut de la liste. Ouais. Et donc, mes copains de campagne
Véronique, vas-y.
Ouais, ils m'ont demandé. D'abord, il y avait une volonté forte que ce soit une femme. Et puis après, voilà.
Ah c'est oui, c'est une manière quand même de donner une connotation. Alors, mais avant que vous parliez de vos actions, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors Véronique, quels sont, disons à titre personnel, les lieux à Montpellier que vous aimez bien, que vous recommandez à vos amis?
Alors, déjà, votre question, elle me fait mais vraiment chaud au cœur. Parce que moi, je suis arrivée en 1987 à Montpellier.
J'avais vous arriviez d'où ?
De Toulouse.
De Toulouse.
Enfin, oui, j'avais fait déjà 2 ans d'études à Toulouse. Et moi, j'ai grandi dans un petit village au sud, proche hein, de Toulouse. Donc, je connaissais bien Toulouse. Même si on n'y vit pas, on ne vit pas pareil dans une ville quand on y habite et quand on n'y habite pas. Donc moi, j'habitais, plus grande, j'habitais en lisière de Toulouse. Enfin, moi, je connaissais bien Toulouse. Mais quand je suis arrivée à Montpellier, toute seule, à 20 ans,
ne connaissais
absolument personne, pour poursuivre mes études à la fac de Sciences Éco. En fait, entre Montpellier et moi, ça a matché tout de suite. Je suis vraiment tombée...
C'était quelle année, madame ?
87.
87,
vraiment
d'accord.
Tombée amoureuse et j'ai su que j'allais jamais repartir.
Ah oui, vraiment, c'est un coup de cœur.
Un coup de cœur et c'est une ville que j'ai appréciée tout de suite parce que je me suis amusée à m'y perdre pour la connaître. Et quand on a 20 ans, qu'on arrive là, ben, ce n'est pas forcément sécurisant. Mais en fait, je ne ressentais pas d'insécurité. Je me la suis appropriée. Et puis, ça a été, honnêtement, ces années-là, les plus belles de ma vie. Parce
c'est souvent le cas quand on est étudiant.
Voilà, c'est ça.
Bon, qu'on n'a pas trop de difficultés.
Voilà, et j'ai profité pleinement de mes études en sciences éco, je me suis juste éclatée. J'ai rencontré plein d'amis et puis les amis le réseau amical que je me suis constitué à cette époque-là.
Il perdure.
C'est plus qu'il perdure, c'est mes amis, c'est avec eux que je pars en vacances. On a élevé nos enfants ensemble. Donc c'est vraiment.
Bon, en fait, voilà, je suis très une Montpellierenne, d'accord.
Et puis je continue quand pour sortir le soir, voilà, on se donne rendez-vous avec ses amis et on va resto, on va au ciné. Je connais toutes les boutiques par cœur.
Très bien.
Et voilà.
Alors maintenant quand même, bon,
Les rues.
Parce que comme vous avez été très précise là-dessus, on va passer. Il faut quand même qu'on n'oublie pas l'essentiel. Mais commençons par aller à Villeneuve-les-Maguelones. Alors, petite précision, souvent ignorée, les accent grave S, Maguelone ne signifie pas qu'il y a plusieurs Maguelones, mais veut dire près d'eux. Alors, ce n'est pas comme Palavas les flots, mais comme entre autres, exemple, Murviel les Montpellier. Alors, les Montpellierains et les touristes connaissent donc la cathédrale Maguelone et les plages voisines, mais dites-nous en davantage sur votre petite ville qui approche les 11 000 habitants. Quels sont ces tressaillants, notamment ce qui caractérise son territoire ?
Alors, c'est curieux. Quand je suis arrivée à Villeneuve-les-Maguelones, déjà on devrait dire les Maguelones, en 2000, c'est relativement récent, il s'est passé quelque chose aussi. Et là, en plus, j'y suis arrivée, je vais vous dire, par hasard. Mais vraiment par hasard, ce n'était pas le projet de vie avec mon mari, mais on s'est retrouvés à Villeneuve. Ben, là, tout de suite aussi, j'ai dit, ah ben, en fait, c'est là que je vais vivre. Donc, on est arrivé avec mon mari et notre fille est née. Et là, ouais, j'ai dit, en fait, c'est là que je vais vivre. Et ce que j'ai tout de suite apprécié et qui donne bien une image de Villeneuve, c'est en fait, il y a un cœur qui bat à Villeneuve. Il y a l'âme villageoise de village qui est restée.
Alors, donc, ce n'est pas une ville, une commune banalisée, une ville dortoir, comme vous disiez. Elle a gardé son style, son âme.
Il y a quelque chose du village qui reste, donc du lien qu'on peut trouver dans un village où on se connaît, quoi, en fait. Et ça, c'est extrêmement agréable. Surtout, moi, j'avais grandi dans un village. C'est un lien de proximité que j'apprécie particulièrement. Et donc, il y a un esprit un peu insulaire aussi,
oui.
Je dirais.
Ah, oui.
Et donc, on peut considérer que parfois, c'est un peu de la fermeture sur soi et sur l'environnement proche. Mais c'est un lien fort de ressemblance, en fait, pour parler sociologiquement.
Voilà. D'identité.
Quoi. D'identité forte. Et puis, bien sûr, évidemment, Villeneuve-les-Maguelones, c'est un environnement naturel absolument exceptionnel, très très riche. Et puis, évidemment, mais c'est peut-être ça qui distille quelque chose de particulier dans l'air, c'est le patrimoine qui est énorme, le patrimoine historique et culturel qui est tout à fait énorme.
Très bien. Alors, on va quand même venir au gros de notre conversation pour parler de ce que vous faites en tant que maire. Quel est l'axe principal du projet politique qu'avec la majorité municipale, vous mettez en œuvre depuis bientôt 5 ans? Et comment cet axe se traduit par les principales réalisations issues de ce choix fondamental ou fondateur?
Ok. Ben justement, l'axe principal de notre action, c'est reconstruire le lien et le faire vivre, le développer. Les villes dortoirs, elles ont. C'est un lien qu'on perd. On oublie de travailler sur le lien qui doit exister entre les gens qui habitent au même endroit, en fait. Il ne faut pas penser la ville en termes de logement, mais en termes d'habitat. Il faut faire en sorte que les gens habitent réellement leur ville. Et ça, ça participe véritablement du bonheur de chacun, hein, et du non-sentiment de relégation. C'est extrêmement important.
Il faut que les communautés de vie.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, on n'est pas obligé de tous vivre ensemble les moments de notre vie, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui nous fasse sentir vivants, en fait. Et l'homme est un animal social. L'homme avec un grand H, parce que la femme aussi. Hein.
Mais,
on n'en doute pas. Mais on a besoin, en fait, des autres. On existe avec les autres, parce qu'on est constitué comme ça. Donc, on a nécessairement besoin de ce lien. Ça ne veut pas dire s'entendre et être toujours d'accord, veut dire discuter, justement. Ça veut dire
concrètement. On y reviendra.
On y reviendra.
Très bien.
Et donc, du coup
ouais, ça, c'est l'espèce de colonne vertébrale, le grand axe.
Mais comment on le fait vivre ?
Vous pouvez nous donner quelques exemples de manière dont ça s'est traduit ?
Ben, ça s'est traduit déjà sur la remise en cause de la façon dont l'urbanisation se développait dans notre ville. Donc, on a arrêté les constructions, l'urbanisation anarchique, c'est-à-dire à l'opportunité. Hop, il y a une villa qui se vend, paf, on y met un immeuble. C'est un urbanisme qui n'est pas réfléchi, qui est traumatisant, extrêmement traumatisant.
Qui était, en tout cas.
Et donc, on y a mis fin, on a repris la main là-dessus. On a réussi à arrêter quelques gros, je pense à un particulier, très gros projets qui auraient vraiment impacté la ville, en pesant aussi des soucis de circulation, de stationnement. Voilà quoi. Donc, les projets étaient à l'opportunité sans réfléchir
sans vision à terme.
Voilà. Donc, nous, on a mené une grosse étude urbaine accompagnée par le CAUE 34 et par le bureau.
Alors, c'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme de l'environnement, qui est, disons, un satellite du département et qui accompagne les communes dans leur projet d'urbanisme et d'aménagement.
On en est adhérent. Oui. C'est une association. Et donc, ils nous ont écrit le cahier des charges pour consulter. Nous avons ensuite travaillé l'étude urbaine avec le groupement, le bureau d'études de la Strada. Et donc, à partir de là, nous avons écrit le futur en termes d'aménagement de Villeneuve. Maintenant, nous sommes passés à la phase opérationnelle. Donc, par exemple, nous avons lancé une première phase de rénovation du centre-ville.
Ah, du bâti ancien, oui.
Alors, de l'espace public. De l'espace public, mais bien sûr aussi, il y a du bâti autour de l'église qui nous appartient. Donc, évidemment, on a une réflexion qui se précise très clairement sur ces bâtiments-là. Ensuite, ça va aussi avec la revitalisation du commerce local. On a un commerce local, globalement, on trouve tout sur Villeneuve, mais il faut le recentraliser autour de cette place et puis le pérenniser aussi, le rassurer, en fait, le commerce, et faire en sorte que les gens viennent consommer. Donc ça, on s'est rapproché de la Chambre de commerce et d'industrie. On travaille aussi beaucoup à valoriser nos associations. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif.
Ouais, c'est une forme de vie partagée,
exactement,
et d'activité sociale.
Exactement. Ça vient vraiment créer du lien entre les citoyens. Mais aussi, nous, on considère que les associations sont vraiment un corps intermédiaire extrêmement important entre les élus et la population. C'est des interlocuteurs. Et vraiment, on fait en sorte d'avoir un dialogue permanent avec ces associations. on les accompagne, quand on est arrivé au mandat, on a augmenté l'enveloppe des subventions et puis on accompagne toutes les initiatives qui tiennent la route et on a des associations qui se sont créées depuis qu'on est arrivé au mandat, comme les commerces d'ailleurs. On a
alors quand vous dites sont... habitants, population, c'est à la fois les anciens, plus ou moins anciens, habitants de la commune et aussi des nouveaux qui arrivent, même si... c'est pas massif, me semble-t-il, l'arrivée de nouveaux habitants, mais il y en a quand même.
En tout cas,
comment ce rapprochement, qui parfois pose des problèmes, se vit-il à Villeneuve, entre les anciens et les nouveaux, où il n'y a pas vraiment de problème?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Moi, les gens que je rencontre qui viennent d'arriver, c'est assez souvent maintenant de jeunes couples, avec ou sans enfants encore, on va dire. Et pas que, on a aussi quelques retraités jeunes, mais de plus en plus des jeunes quand même. Et les gens apprécient énormément Villeneuve parce qu'ils y trouvent de la vie, de la vivacité. Il y a du dynamisme parce que voilà, il y a tout ce qu'on vient de dire. Et ils sentent qu'il y a une action aussi municipale qui porte cette dynamique et qui réveille, qui dépoussière un peu tout ça. Et puis on a aussi une offre culturelle et de festivités extrêmement importante.
Alors oui, c'est un des choix, je dirais, un des marqueurs et du programme et de la manière de le réaliser. Pourquoi, vous l'avez évoqué sur le recul en matière d'activité culturelle de l'équipe municipale précédente, mais pourquoi de mettre en avant la culture dans une commune donc, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui entend quand même prendre sa place dans l'offre culturelle?
Parce que la culture, c'est encore une façon de faire du lien, de vivre des émotions ensemble. On y voit... Et puis c'est un marqueur villeneuvois, comme effectivement on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un travail qui est extrêmement important de notre théâtre avec les écoles. Et pour moi, la culture, c'est vraiment un catalyseur d'émotions. Et ressentir des émotions et les partager... C'est vraiment partager la vie avec les autres, en fait. Et voilà, oui, on a une ambition culturelle très, très forte. Très, très forte. Et puis, ça permet à la ville de rayonner.
Alors, on ne peut pas faire le tour, je dirais, du bilan de mandat. Vous avez produit le bilan de mi-mandat il y a quelques temps. Oui. Mais toutefois, pour bien comprendre votre manière de gérer la commune, est-ce qu'il y a des opérations, des réalisations que vous avez conduites qui tendait, je dirais, à innover, à répondre à des besoins nouveaux qui ne s'exprimaient pas nécessairement autrefois?
Par exemple, on a mis en place une mutuelle communale à début 2022, je ne sais plus.
Deux ans avant que Montpellier
le
fasse.
C'est ça, tout à fait. Avec une formule originale, parce qu'en fait, c'est une association qui reçoit les gens et qui leur propose un contrat qui colle complètement à leurs caractéristiques, mais parmi plusieurs mutuelles, en fait.
Ah, d'accord.
On n'est pas attaché.
Une espèce de panier de mutuelles exactement. Entre lesquelles les gens
exactement.
Peuvent
choisir. Et en fait, c'est une association qui a été montée par des anciens élus. Et donc ça cartonne vraiment, vraiment. C'est porté dans les locaux du CCAS. Donc voilà, on travaille avec cette association Action. On est en train de monter une fédération de bénévoles pour répondre aux besoins des associations.
Donc, vous avez des gens du temps à donner. Ils appartiennent ou pas à une association,
tout à fait.
Peu importe, si
en fait,
comprends bien. Oui.
C'est pour... On sait très bien qu'il y a des gens qui sont prêts à œuvrer pour la collectivité, pour l'intérêt général, mais on voit aussi qu'on a une crise du bénévolat, c'est-à-dire ce bénévolat où le bénévole, il est impliqué à 150%. Ça ne correspond plus à ce que les gens ont envie de vivre.
Oui, de leur choix de vie, notamment.
Et c'est normal, moi, je le comprends tout à fait au niveau personnel. Et donc, voilà, c'est que les gens puissent apporter une aide plus ponctuelle, on va dire. Et puis ensuite, je citerai aussi, voilà, on entreprend les premiers pas vers le montage d'une centrale énergétique municipale avec la pose de panneaux photovoltaïques les équipements municipaux.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On a bien sûr préparé cet entretien, donc ça file, on va être obligé d'avancer. Peut-être avec une question autour de l'enjeu démocratique. Bon, on le sait, vivifier la démocratie, activer la citoyenneté est un enjeu majeur. En France, la défiance à l'égard des élus est persistante et puissante, inquiétante donc. Elle frappe cependant moins les élus locaux. Comment ce phénomène, vous le percevez, et quelle réponse vous apportez, je dirais, à cette activation de la démocratie locale ?
Déjà, la défiance, c'est vrai que moi, en tant qu'élu local, je la ressens moins fortement, très certainement, que les gens qui sont plus haut dans la hiérarchie
politique. Oui, que les parlementaires, notamment. Oui.
Je crois que pour répondre à cette défiance, la meilleure solution, c'est de poser des explications, d'expliquer pourquoi on fait les choix qu'on fait, d'expliquer quel est l'objectif qu'on recherche, de rentrer en discussion. Pour moi, cette défiance, elle est liée au manque de lien, en fait. Et c'est logique qu'il y ait une défiance.
Mais oui, parce qu'il y a une distance qui s'est créée.
Voilà.
À force, dans les grandes, les villes plus grandes.
Et puis, on est aussi desservi, c'est un thème récurrent en ce moment, par les réseaux sociaux. Elle s'exprime pas mal sur les réseaux sociaux. Après, il faut savoir distinguer parmi les remarques acerbe un petit peu celle qui le relève d'un vrai questionnement et celle qui relève de la pure méchanceté.
Oui, c'est en gros entre l'interpellation et l'agression.
C'est exactement ça. Et donc, voilà, l'agression, il ne faut pas la prendre pour soi. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Il faut savoir se protéger.
Très bien. Alors, donc, vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs pour écouter la population. Bon. Vous reviendrez nous voir pour qu'on voit ça dans le détail. Je vous propose de passer un peu aux questions métropolitaines. Donc, Villeneuve est l'unique commune de la métropole située sur le littoral. Vous avez rappelé cette richesse, bon, les étangs, etc. Ça induit un certain nombre de problématiques qui, j'imagine, ont confié le conseil métropolitain à vous demander de prendre en charge les questions, je l'ai dit tout à l'heure, sur le littoral, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des risques, les risques. Alors, la fameuse GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et des prévention des risques, une nouvelle responsabilité. Bon, beaucoup de gens l'ont découvert parce qu'il y a une ligne nouvelle dans les avis d'impôt des taxes foncières. À quoi sert la GEMAPI, en définitive, notamment sur le territoire dont vous avez la charge et quelles sont les missions qu'elle doit accomplir et comment ça se manifeste ?
Alors, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Pas des risques, prévention des inondations. Alors en fait, comme je le dis là assez clairement, il y a deux volets. Gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Donc en fait, de quoi on s'occupe ? De préserver, de renaturer et préserver les milieux aquatiques et en même temps des inondations. Mais le fait d'associer la création de cette compétence, l'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est de ne pas faire de PIS en GEMA et de ne pas faire de GEMA sans PIS.
De lier,
vous voyez,
les deux problématiques. Exactement. Et les deux enjeux.
Moi, je dis, c'est une compétence intégrée à elle-même. Ouais. Par exemple, on ne protège pas contre les inondations efficacement si on ne tient pas compte du fait que, par exemple, un cours d'eau, il a besoin d'une zone d'expansion de crue. Vous voyez l'idée ? Et le raisonnement, l'axe qu'on essaie de développer avec le service et les experts de ce service, parce que je peux vous dire qu'il y a une sacrée expertise.
À la métropole ?
Ah ouais. Et c'est l'idée que la GEMAPI, elle doit être complètement intégrée à l'aménagement du territoire pour être efficace. Et par exemple, je suis très satisfaite, puisque vous le savez, le PLUI a été arrêté.
Le plan local d'urbanisme intercommunal.
Voilà, il a été arrêté. Et donc, nous avons pu intégrer beaucoup de dispositions venant de la GEMAPI, comme par exemple les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau qui interdisent toute construction dans un certain périmètre autour des cours d'eau pour ne pas répéter les bêtises
du
passé.
Passé.
Exactement.
Assister à ce qui s'est passé à Valence, à Valencia,
tout à fait,
il y a
tout
quelques
à fait,
semaines.
Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, il y a aussi tout un volet GEMA, donc renaturation, qui est extrêmement important parce que préserver les milieux aquatiques, c'est préserver toute la biodiversité qui va avec. Bien sûr, les ressources en eau aussi. On rejoint aussi la question des ressources en eau.
La question des ressources, bien sûr.
Voilà. Et puis, protéger les biens et les personnes des inondations, évidemment, ça, on est d'accord.
Alors, sur ce chapitre, je vous propose d'aborder, ce sera une dernière question. Les habitants, à Villeneuve et ailleurs dans la région, notamment les nouveaux venus, ne connaissent que peu ou pas la rapidité et la brutalité de ce qu'on appelle maintenant les épisodes Cévenol, les épisodes méditerranéens. Bon, la météo nationale en parle. Et ils ne connaissent pas du coup les précautions à prendre. Est-ce que cette culture du risque progresse, selon vous, et qu'est-il fait pour que les habitants se l'approprient ?
Alors, la culture du risque, je pense que sur notre territoire, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais en fait, la culture du risque, il faut l'entretenir. Et il est là, en fait, le défi. Parce que, par exemple, là, en ce moment, enfin, aujourd'hui, ça fait un certain nombre de mois, d'années, qu'on n'a pas eu d'épisode majeur en termes d'inondation. Et du coup, les gens oublient le risque.
C'est ça. Donc, voilà. Comme il n'y a pas de mémoire fraîche du problème, hein, du coup, bon, voilà, on pense à autre chose. Et donc, on risque d'être désarmé le jour où une inondation conséquente se produit.
Là, je travaille avec le service Mission Sécurité Civile. On organise des groupes de travail avec les communes pour travailler sur ces questions-là de culture du risque, d'alerte, etc. etc. Donc, ça permet d'entretenir la culture du risque auprès des élus, auprès des agents des communes. Et ça, c'est quelque chose qui se diffuse auprès de la population. Je passe vite. Et puis, il faut communiquer. Les collectivités, elles doivent absolument communiquer.
Alors, je vais vous inviter à le faire en direction des auditrices et des auditeurs en donnant ou en rappelant ce qu'il faut savoir, où qu'on habite en définitive, parce que maintenant, il y a des zones plus ou moins risquées, pour savoir se protéger quand survient une inondation.
Alors déjà, première chose, allumez la radio.
Oui.
Et vous conformez aux consignes absolument.
Alors, la radio, c'est bon. Divergence fait son travail, mais donc
il y a
France Bleu Héros qui s'appelle depuis quelques semaines Ici Héros, qui est chargé officiellement de diffuser régulièrement des informations pour permettre aux gens de prendre les bonnes décisions pour se déplacer, aller chercher les enfants à l'école ou je ne sais quoi.
Tout à fait. Respecter les interdictions aussi sur la voie publique. Donc si un pont est interdit, on ne le franchit pas. On se souvient de ce qui s'est passé dans le Gard. Et oui, il y a des consignes très très claires. Si vous êtes à l'abri, restez-y, ne vous déplacez pas. Ne vous déplacez pas en voiture. N'allez pas chercher vos enfants à l'école.
Les enfants sont plus protégés à l'école ou au collège que sur la route, dans la voiture de leurs parents.
Exactement. Quand vous vous déplacez en voiture, lorsqu'il y a une inondation conséquente, vous prenez un risque pour vous, pour vos enfants s'ils sont avec vous. Mais en plus, vous encombrez la circulation. Donc, vous gênez.
Au dépend des services de sécurité, des pompiers, etc.
Tout à fait. Et puis, c'est vraiment l'essentiel. C'est très bien.
Alors, bon, on termine sur ce sujet qui peut être grave, mais bon, je crois que les auditeurs, vous avez rappelé les qualités, le patrimoine à la fois naturel et patrimonial, enfin bâti, que la commune est riche, donc pour donner envie aux auditeurs de venir faire un petit tour du côté de Villeneuve dans les semaines et mois qui viennent. Je vous remercie, madame.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.